Vous écoutez RTL.
RTL dimanche soir, le MacPol
avec Philippe Robuchon.
Le MacPol, le magazine politique de la rédaction de RTL avec Olivier Mazerolle. Bonsoir.
Bonsoir.
La France atteinte d'un nouveau syndrome, la débat-ite. 5 jours après son lancement par Emmanuel Macron, pas un département, pas un canton n'échappe à cette envie de débattre partout pour répondre à la colère des gilets jaunes. Dans les mairies, les salles des fêtes, les gymnases, partout ce débat est lancé. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, même si déjà un grand nombre de citoyens expriment des doutes sur ce qui se passera après. Illustration dans un instant lors d'un débat à Villiers-le-Bel dans le Val-d'Oise. Jean-Pierre Raffarin était à la mi-journée l'invité du grand jury sur RTL. L'ancien Premier ministre a proposé ses solutions pour sortir de la crise. Cela passera par des réformes institutionnelles, a-t-il dit, sociales et liées à la décentralisation. On le réécoutera, on débriefera. On parlera également de Jean-Luc Mélenchon et du malaise diffus qui monte au sein de la France insoumise à 4 mois des européennes. Un malaise longtemps nié ou minimisé, mais que certains cadres n'hésitent plus désormais à exprimer. Le MacPol, c'est parti jusqu'à 19h.
RTL dimanche soir.
Le MacPol.
Ils étaient encore 80 000 hier à défiler dans les rues, ce n'est pas rien, des records ont même été battus comme à Toulouse, mais cette mobilisation n'est plus la seule, en tout cas, elle n'est plus l'apanage des gilets jaunes. Incontestablement, le fait nouveau, on verra si ça se confirme, c'est que depuis plusieurs jours, des milliers de citoyens ont envie de participer au grand débat souhaité par l'Élysée, de mettre sur la table tout ce qui ne va pas. 200 réunions ont déjà eu lieu, 500 autres sont programmées, un véritable foisonnement démocratique réjouissant, il faut bien le dire, même si déjà pas mal de citoyens expriment leurs doutes sur la phase d'après. On va l'entendre dans le reportage qui va suivre. Vendredi soir, Anne Le Hennaff a posé le micro RTL à Villiers-le-Bel, 27 000 habitants dans le Val-d'Oise.
Il est 20h, une cinquantaine d'habitants se retrouvent à l'étage de la maison Cossue en Meulière qui abrite la mairie. Beaucoup de cheveux blancs, de gens déjà plutôt impliqués dans la vie locale, mais pas seulement. Les galettes des rois attendent dans un coin de la pièce. Mais auparavant, ceux qui sont venus participer ce soir à ce grand débat national ont du travail.
Vous allez pouvoir discuter table par table et mettre sur le papier toutes vos idées, toutes vos suggestions.
Ils sont une petite dizaine par table et doivent remplir une feuille double avec leurs souhaits pour chacun des 4 thèmes retenus par le gouvernement. Certains sont venus avec leurs notes. Les discussions commencent.
En tant que retraité, je vais dire l'indexation des retraites.
Les commerces de proximité, c'est pareil.
En 2002, la baguette a coûté 80 centimes. Aujourd'hui, elle coûte 6,57 francs. Mais ça, personne n'a calculé ça.
Pour les médecins généralistes, on devrait, dans les campagnes, les obliger de rester, mettons, 5 ans.
Le temps est écoulé à présent.
Le porte-parole de chaque table résume alors les travaux.
Alors pour notre compte, favoriser les circuits courts et les producteurs locaux.
Sur la fiscalité, réduire la TVA sur les produits de première nécessité, supprimer la CSG pour les retraités, appliquer les PV pour les étrangers qui font des infractions en France.
Alors table suivante, possibilité de récuser nos politiques lorsqu'ils ne remplissent pas leurs contrats, donc un contrôle plus renforcé des citoyens. On voudrait protéger, renforcer et ne pas relier nos services publics à des impératifs économiques, mais à des besoins humains.
Peut-on rendre la SNCF abordable pour les longs trajets? Le prix n'est pas assez attractif par rapport à la voiture.
Il en ressort une envie générale d'être mieux représenté, mieux écouté, moins taxé, ou que tout le monde mette la main à la poche, y compris les multinationales et les exilés fiscaux. Mais alors, que deviendront ces pistes et ces propositions?
Les idées, ça m'étonnerait qu'elles soient toutes retenues. J'y crois pas. Le mal est trop profond. Je suis très réservée. Je pense qu'il essaie de regagner le pouvoir, notre président.
C'est bien de discuter. C'est pas négatif. Ça n'a pas été dans tous les sens. On a abordé tous les sujets, mais graduellement. Mettre les poubelles jaunes, les trucs, c'est bien, mais c'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick.
Mais on s'aperçoit que toutes les personnes se posent les mêmes questions. Si tout le monde se pose la même question, il va bien falloir qu'ils trouvent une solution. Moi, je sais pas, mais quand même.
Il est 22h, le grand débat est terminé pour ce soir, mais la discussion se poursuit, une part de galette à la main.
Un reportage d'Anne Le Hennaff, Villiers-le-Bel dans le Val-d'Oise. Olivier Mazerolle, je ne sais pas quel est votre sentiment, moi ce qui me frappe, on a l'impression qu'il y a un thème qui écrase tous les autres, c'est le pouvoir d'achat.
Bah oui, vous savez, c'est le sentiment de ne pas être pris en compte, de ne pas être respecté, qui a été symbolisé par le manque de pouvoir d'achat qui a provoqué la crise politique. Emmanuel Macron ne peut pas régler à lui tout régler à lui seul, mais il est tenu de fixer un cap, celui d'une politique économique responsable qui n'oublie pas la dimension sociale nécessaire à la cohésion de la nation. Il n'est pas admissible que dans un pays comme la France, qui se veut le pays de la fraternité et de la solidarité, on ne puisse pas vivre décemment des fruits de son travail. C'est ce que disent les Gilets jaunes, et qui pourrait prétendre le contraire ? Personne.
Oui, mais alors, je crois que la France détient déjà le record mondial des prélèvements obligatoires, des dépenses publiques, qui financent déjà pour plus de la moitié des prestations sociales. Alors, on fait comment ?
Oui, oh bah, vous pourriez ajouter à la liste que quand on dit que la redistribution ne se fait pas bien, on oublie de préciser que l'impôt sur le revenu est payé uniquement par les 44% de ménages les plus aisés, les autres ne le payent pas. Alors, comment on fait ? Eh bien, avec des économies et des recettes mieux assurées.
Et des impôts en plus ?
Mais non ! Mais des impôts lisibles, qui n'alimentent pas la suspicion. Par exemple, en supprimant les impôts sur l'impôt, comme la CSG non déductible ou la TVA qui s'ajoute à la taxe sur les carburants, en redonnant vigueur à l'impôt sur le revenu, qui est le plus juste parce que proportionnel, en le faisant payer par tout le monde. Au lieu de rétablir l'ISF, qui est un impôt nuisible et peu rentable, on peut supprimer le maquis des niches fiscales, devenu le terrain de jeu favori des plus riches. On peut également taxer toutes les entreprises qui opèrent sur le territoire français. On peut traquer les fraudes et puis décider, comme cela se passe aux États-Unis, que tout citoyen français, où qu'il réside, devra payer un impôt sur une source de revenus empochée à partir de la France, que ce soit un salaire, une pension de retraite ou des dividendes.
Bon, et les économies, on les fait où ?
Eh bien, la Cour des comptes les énumère, réorganiser l'État, supprimer les doublons administratifs, supprimer la multiplicité d'agences, de hautes autorités, de comités théodules souvent inutiles, faire le ménage dans les mesures sociales sans efficacité qu'elles bénéficient aux entreprises, aux syndicats et à d'autres encore, et aussi aux particuliers.
Mais c'est la révolution que vous prônez, là.
Mais écoutez, c'était bien le titre du livre écrit par Emmanuel Macron quand il était candidat à l'élection présidentielle, vous vous en souvenez, non ? Bon, ben alors, en mettant fin à l'opacité fiscale, en conjuguant l'efficacité des recettes avec la réalisation d'économies, il pourra sans ruiner le pays mettre en œuvre le revenu universel d'activité comportant des droits et des devoirs qu'il a promis aux Français. C'était dans son programme, ça. Eh bien, il prouvera ainsi qu'il n'est pas indifférent à la vie des plus démunis.
C'était la semaine politique d'Olivier Mazerolle.
Dans un instant... Ça vous fait rire, hein.
Pas
mais
que.
Oui, mais
que.
Voilà, transformer le pays en profondeur, a-t-il dit. Eh oui. Ben voilà.
La liste est longue. 18h42, Olivier, on fait une petite pause. Dans un instant, on réécoute Jean-Pierre Raffarin, qui était au grand jury.
RTL dimanche soir.
Le Mac Poll avec Philippe Robuchon.
C'est donc Jean-Pierre Raffarin qui était l'invité du grand jury ce dimanche. On l'a entendu tout à l'heure dans le journal. Il a souligné la responsabilité d'Emmanuel Macron dans la crise des Gilets jaunes. Quand le cheval trébuche, le cavalier est responsable, a dit l'ancien Premier ministre dans une formule dont il a le secret. Il a appelé à repenser toute l'organisation politique du pays. Cela passera, a-t-il dit, par au moins trois grandes réformes sur les institutions, sur le social et sur la décentralisation. On écoute Jean-Pierre Raffarin, on débriefe après.
Je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron. Vous parliez tout à l'heure de soutien. Je ne suis pas un électeur automatique et systématique. Je suis un constructif. Et je vais vous dire, je suis inquiet pour mon pays. Et donc, je trouve que démocrate, je n'ai pas le droit de ne pas participer à un débat qui est proposé. Je participe au débat. Je vais faire entendre et je vais faire mes propositions. Il y a une question de la représentativité de nos parlementaires. C'est une question qui est posée par l'opinion. Puisqu'on n'accepte pas les lois qui sont décidées. On voit aujourd'hui qu'on pose la question, par exemple, il faudrait une nouvelle loi sur le mariage pour tous. Oui. Moi, je n'ai pas voté le mariage pour tous.
Mais vous pensez
qu'il
ne faut pas y toucher ?
J'ai été battu dans le vote au Sénat à l'époque. J'ai été battu. Enfin, j'accepte la loi telle qu'elle est faite. C'est pour ça qu'il faut revenir plus aux politiques qu'aux sociales. Est-ce que la loi votée est respectée ? Et pour qu'elle soit votée, comment crédibiliser l'Assemblée et notre régime politique ? Moi, je suis pour le RIC régionalisé, sur toutes les compétences régionales, sur l'emploi, par exemple, sur les routes, sur le 80 km/h.
Mais ça, c'est une en question de la démocratie parlementaire telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Pas du tout. C'est de la... Quelles sont les compétences ? Est-ce que la compétence des 80 à 90 km/h, c'est celle du président de la République ou c'est celle du territoire ? C'est celle de la route, c'est celle du virage, c'est celle du carrefour ? C'est une réalité de terrain. Et donc, il faut que cette réalité de terrain soit gérée par des gens de terrain.
Mais est-ce qu'il faut un référendum sur les institutions, du coup ? Est-ce que c'est aussi ça que vous prenez en disant, voilà, on va demander aux Français sur comment changer la manière de gouverner ce pays ?
Moi, je pense qu'il y a deux solutions. Soit un paquet législatif majeur, soit un référendum avec plusieurs volets. Un volet institutionnel, le nombre de parlementaires, la nature de l'élection, la durée des mandats et un certain nombre de choses pour recrédibiliser notre vivre ensemble, relégitimer notre vivre ensemble. Par exemple, je crois qu'il est très important de déconnecter le mandat présidentiel du mandat législatif, parce que ça, on voit bien que...
Donc 5 ans, 4 ans, hein, c'est ça votre...
Voilà, 5 ans, 4 ans. Donc je vous dis, un volet qui est un volet institutionnel, un volet qui est un volet social, avec un certain nombre de mesures... En effet,
par référendum aussi.
Et un volet décentralisation.
Tout ça par référendum.
Je dis soit un paquet législatif,
mais
soit
qu'est-ce qu'il y a votre référence sur le référendum, Jean-Pierre Raffarin.
Je ne sais pas ce que peut donner dans le pays un référendum multi-questions. Je pense qu'il faut pouvoir à la fois apporter des réponses sociales, mais aussi institutionnelles, parce que ça va ensemble.
Mais est-ce qu'il faut leur poser la question de l'ISF, par exemple ? Est-ce qu'il faut dire aux Français ? Est-ce que vous voulez le retour de l'ISF ou est-ce que
pour l'instant, le président dit non ? Voilà. Est-ce qu'il a raison ?
Moi, je pense qu'il a plutôt raison. Si on commence par dire on augmente les impôts alors qu'on veut les baisser, je pense que c'est plutôt aberrant.
Donc, même chose pour la taxe d'habitation et le fait de garder les 20%.
Bon, la taxe d'habitation, c'était un impôt qui était assez accepté, qui était compris et qui était parfaitement identifié.
Mais vous voulez la rétablir pour tout le monde ?
On ne rétablit pas quelque chose qu'on a supprimé, Monsieur Brisé. Donc il est difficile de revenir sur ce type de décision. Mais il est clair que ce n'est pas le sujet qui était primordial.
Mais ce que vous dites, Jean-Pierre Varin, c'est que le président de la République, en supprimant la taxe d'habitation, n'a pas très bien compris aussi les territoires.
Et évidemment que le président n'a pas porté l'attention qu'il aurait fallu porter aux territoires. On l'a vu quand vous voyez un Dominique Bussereau, un François Baroin, un Hervé Morin qui boycottent une conférence territoriale, qui ce sont des gens responsables, raisonnables, ça veut bien dire que le dialogue n'est pas bien branché. Comme le disait Jacques Chirac, il ne faut jamais humilier personne et que la première des règles politiques, c'est le respect. Donc,
le MacPol, RTL dimanche soir.
Benjamin Sportouche, RTL, Christophe Jacubizine, TF1, LCI, Alexis Brézé, Le Figaro. Messieurs, on vient de réécouter le grand jury de Jean-Pierre Raffarin. On sent bien que c'est un homme qui a la parole libre et qui ne se prive pas de donner des conseils, y compris au président de la République en exercice.
Oui, et puis on l'a vu, des conseils extrêmement concrets. Hein. Qui aurait dû animer les deuxième et troisième débats ? Pas le président, dit-il, parce qu'il fallait capitaliser sur le succès de la Normandie, mais peut-être Gérard Larcher ou bien Xavier Bertrand, qu'on voit que Jean-Pierre Raffarin pousse pour Matignon, on l'a bien vu. Oui, effectivement, il donne des conseils. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que Emmanuel Macron les entend, ces conseils ? C'est-à-dire que c'est plein de bon sens, il y a vraiment le flair politique de Jean-Pierre Raffarin est intact, et c'est très agréable pour cette raison. Maintenant, je pense que lui-même n'est pas vraiment sûr que le président l'entende et l'écoute. Donc, c'est la limite de l'exercice, c'est est-ce qu'il a vraiment l'oreille du président ?
Alexis.
Raffarin, il est intéressant parce que Raffarin, c'est toujours un mélange de finesse matoise, politicienne, pas dans le mauvais sens du terme, d'expérience. Il connaît tous les trucs de la politique depuis le temps et de vision globale. Européenne, girondine, décentralisatrice. Et donc, il passe de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, et de temps en temps, il se situe sur le fond, et après, il est dans le petit truc politique. Et parfois, ça marche, d'autres fois, c'est un peu contradictoire, parce que l'animal politique prend le dessus sur l'analyste. C'est intéressant, comme façon d'aborder les choses.
Pour Emmanuel Macron, Jean-Pierre Raffarin, c'est le vieux monde, mais c'est le vieux monde essentiel. Si jamais il décroche son soutien, ça peut transformer un peu plus le paysage politique. On a l'impression comme ça que finalement il est en retraite de la politique et qu'il ne représente plus rien. Attention, c'est faux. Il draine derrière lui toute cette mouvance centriste de la droite, au-delà même d'Alain Juppé, dont on sait que ça fait très longtemps qu'il est loin de tout. Alors que Jean-Pierre Raffarin, il a encore l'oreille de beaucoup de sénateurs, de parlementaires. C'est quelqu'un qui connaît bien les territoires. Donc si jamais il fait l'ultime pas, pour Emmanuel Macron, c'est capital et ça peut transformer les choses.
Alexis. Mais il ne l'a pas fait. On n'aurait pu dire, après ce qu'a dit Juppé, Raffarin allait dire, écoutez, maintenant, le programme européen de Macron, c'est le bon. La situation est grave, il faut tous que nous serrions les coudes derrière le président de la République. Papa, il dit pas ça du tout. Il dit bon, je vais voir, il faut que je vois le programme des LR, le programme d'En Marche, le chef de file de LR, c'est Bellamy, pourquoi pas, faut voir.
Enfin, il est plus proche d'En Marche que de LR.
Il fait bien attention à ne jamais commettre. Ouais. Il dit c'est ma famille LR. Donc il reste vraiment dans l'entre-deux. Et le problème, c'est qu'à un moment, il va falloir choisir. Il n'aime pas ça.
Et puis il a quand même des mots sur Laurent Wauquiez qui sont quand même particulièrement cinglants. Enfin, même s'il enrobe tout ça avec des mots choisis, mais c'est quand même cinglant.
Il doit œuvrer en coulisses pour le remplacement clairement de Laurent Wauquiez. Hein,
par Retailleau, il l'a quasiment, voilà. quasiment dit.
Non, ce qui est intéressant chez Raphaël Raffarin, c'est effectivement qu'il n'a pas franchi le Rubicon aujourd'hui. Mais pourquoi il ne l'a pas franchi? Et je pense que la réponse est finalement assez grave. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il attende quelque chose. Il n'a rien à attendre. Il a dit qu'il était retiré de la politique, il ne veut pas de mandat. En revanche, je pense qu'il ne le fait pas parce qu'il n'est pas certain qu'Emmanuel Macron change et arrive effectivement à faire de ce grand débat une opportunité politique, arrive à sortir par le haut avec une réforme des institutions. Au fond, j'ai peur que Jean-Pierre Raffarin doute d'Emmanuel Macron. Et donc, il ne fera ce saut qui sera effectivement très profitable à Emmanuel Macron que s'il est sûr que le président a changé et peut changer le pays.
Oui, il est quand même aussi ce porteur des territoires. Et c'est ça aussi qu'il peut apporter au président de la République. Mmh. Mais il n'est pas certain d'être entendu sur ce plan-là. C'est vrai qu'il voit devant lui, il est fasciné lui aussi par Emmanuel Macron, on le sent quand même. Hein. Il a dit 2022, pourquoi pas, il peut être élu. Mais attention, quand on l'entend sur le 80 km/h, il trouve ses décisions complètement aberrantes. Il faut revenir au territoire. Mais il n'est pas sûr, là aussi, qu'Emmanuel Macron l'entende. Parce que cette droite-là qui représente, c'est celle des territoires, qui est plus représentée par Bruno Retailleau que par Laurent Wauquiez. Il est dans cet entre-deux, et c'est vrai que la recomposition du paysage politique, eh bien, elle est encore en mouvement. C'est ça qui est intéressant.
Je pense qu'il y a une dimension personnelle, c'est effectivement, est-ce qu'il a confiance dans la capacité de Macron, première chose. Et après, il y a un choix stratégique dont, à mon avis, il ne l'a pas encore fait. On a essayé de l'amener sur ce terrain-là à la fin. C'est, est-ce qu'il faut créer quelque chose entre le Front National et Macron pour une alternance future, que demain un candidat puisse s'opposer à Macron et gagner, un républicain, et il ne serait pas contre, ça, il aimerait bien, ou bien est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'il faut que tous les gens qui, grosso modo, ont ces idées basculent du côté de Macron? Ça, je pense que ce choix-là, qui est un choix très profond, qui peut engager la vie, bien au-delà de Raffarin, la vie politique française pour les 10 ou 15 ans qui viennent, il ne l'a pas fait parce qu'il ne sait pas.
Ouais. Ça veut dire qu'il est trop tôt? On attend quoi? Les européennes?
Il attend une confirmation aussi de l'orientation politique d'Emmanuel Macron, qui laboure sur les terres de droite, mais qui en même temps a donné à un moment donné des signaux plutôt à gauche, avec les 10 milliards aussi hein, aux Gilets jaunes. Donc il n'est peut-être aussi pas certain de l'orientation réelle et définitive d'Emmanuel Macron.
Christophe? Oui, juste effectivement, il faut que ces deux mois de débat débouchent sur quelque chose, et ça on n'en est pas encore sûr. Est-ce que Emmanuel Macron s'achète du temps, ou est-ce qu'il est vraiment décidé à transformer le pays? On ne sait pas.
On est nombreux à se poser la question. Merci Christophe Jacubizine, TF1 LCI, Alexis Brézé, Le Figaro, Benjamin Sportouche, RTL.
Merci.
Merci. Merci.
Olivier Mazerolle, on viendrait écouter Jean-Pierre Raffarin, très ambitieux, tout ce qu'il veut faire au niveau de la réforme institutionnelle. Il veut changer beaucoup de choses.
Ben, il est ambitieux, mais il a raison, parce qu'il faut décentraliser. Vous savez, même le général de Gaulle y avait pensé, ça remonte maintenant à 1969. Vous voyez, ça fait quand même 50 ans en arrière. Bon, le général de Gaulle, pas n'importe qui, pas un fou furieux qui veut démanteler la France. Bon, eh bien, oui, ça serait une respiration tout à fait nécessaire dans la vie démocratique du pays et de plus économique également, parce qu'il y a des tas de mesures de soutien économique qui pourraient être prises au plan régional.
On va s'arrêter à présent sur la mauvaise passe que traverse Jean-Luc Mélenchon. Une mauvaise passe qui dure. Elle avait débuté avec les perquisitions au siège du mouvement de la France Insoumise. Sa réaction volcanique, on s'en souvient, lui avait fait perdre des plumes dans les sondages. On se disait qu'avec la crise des Gilets jaunes, bien, il allait reprendre du poil de la bête. Pas du tout. Elle a surtout profité à Marine Le Pen. Et voilà que cette semaine, un nouveau front s'est ouvert devant lui. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire.
Bonsoir.
Presque un coup de poignard, on pourrait dire, puisque dans une lettre interne au mouvement, quatre personnalités de la France Insoumise se sont démarquées de Jean-Luc Mélenchon sans prendre de gants.
Oui, et si on en parle, c'est pour deux raisons. D'abord, les critiques percent très peu à l'extérieur de la France Insoumise. D'ailleurs, les signataires, tous candidats aux européennes, ne s'expriment pas dans les médias. Et puis, deuxièmement, parmi eux, il y a Charlotte Girard. C'est une des responsables du programme. C'est aussi quelqu'un pour qui Mélenchon a beaucoup d'affection. Il considérait son compagnon, François Delapierre, emporté par la maladie il y a 3 ans, comme son héritier politique et son fils spirituel. Et pourtant, c'est bien elle qui, avec ses camarades, qualifie de brutale et contre-productive la méthode Mélenchon après un tweet par lequel il bannit une autre figure du mouvement, François Coq, pour cause de nationalisme.
Alors ces critiques sur la méthode, on les sent monter hein, depuis quelques semaines.
Bah effectivement, fin novembre, Djordje Kuzmanovic, en charge de l'international, claquait la porte. Pourtant, quelques jours avant, il accompagnait Jean-Luc Mélenchon au congrès du Parti travailliste à Liverpool. Après ce départ fracassant, il a fait part de ses griefs à RTL.
Ça fait un an que moi-même et d'autres
Charlotte Girard, François Coq et beaucoup de militants réclament une organisation un peu différente. On ne peut pas prétendre vouloir faire la 6e République, respecter la volonté populaire, introduire plus de démocratie et avoir une organisation complètement verrouillée par un petit groupe dirigeant qui n'obéit qu'à lui-même et refuse d'écouter qui que ce soit.
Et cette semaine, dans une tribune publiée par Le Monde, cet ex-proche de Jean-Luc Mélenchon met même en cause son caractère explosif et impulsif révélé lors des perquisitions.
Alors ces critiques, Marie-Bénédicte, affaiblissent-elles Jean-Luc Mélenchon? D'abord, comment les prend-il?
Bah mal, vous vous en doutez. Écoutez-le mercredi sur France 2.
Il faut que j'accepte les critiques. Oui, j'ai une façon de diriger qui est que je ne permets pas que les uns ou les autres s'emparent du label et en fassent ce qu'ils veulent.
Un agacement durable, puisqu'il est revenu sur le sujet vendredi soir à Marseille, dans la petite salle de concert où il présentait ses vœux.
Qu'on nous traite et qu'on nous juge sur ce que nous faisons, sur ce que nous disons réellement, sur ce qui est dans notre programme. Je dois répondre à d'obscures querelles de ci, de là, et jusqu'au journal de 20h. J'espérais qu'on me dise, bon alors, quelle solution voyez-vous à cette crise des gilets jaunes, dans quelle part vous reconnaissez-vous? Rien de tout ça.
Jean-Luc Mélenchon a le réflexe de la citadelle assiégée. On nous attaque pour nous affaiblir. En réalité, la direction du mouvement sent bien que le petit commando constitué pour gagner l'Élysée doit maintenant fonctionner avec plus de collégialité. En tout cas, à ce stade, il est impossible de savoir si les militants s'en vont. On vous assure toujours que le mouvement en compte 500 000, comme pendant la campagne de 2017. Quant au leadership, même si le député François Ruffin fait son bonhomme de chemin, il n'est pas vraiment remis en cause tant que les insoumis continuent de penser que Jean-Luc Mélenchon serait leur meilleur candidat à la prochaine présidentielle.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Olivier, nous reste quelques secondes. On va évoquer 2-3 infos sur l'agenda politique de la semaine. D'abord, demain, Alexandre Benalla, de retour devant la commission d'enquête du Sénat.
Ça va être intéressant.
Emmanuel Macron qui reçoit des patrons à Versailles, patrons français internationaux. Et puis mardi, Emmanuel Macron et Angela Merkel qui se retrouvent à Aix-la-Chapelle. Il y a tout un tas d'informations qui circulent, des fake news sur
alors
Internet.
Il faut
les démontrer.
Il faut casser toutes ces rumeurs scandaleuses, propagées d'ailleurs par des éléments de Debout la France ou de Rassemblement National, qui affirmaient que Emmanuel Macron avait l'intention de vendre à l'Allemagne l'Alsace et la Moselle. C'est complètement faux.
La Lorraine, oui.
Non, la Moselle.
La Moselle.
La Moselle, pas la Lorraine. Comme en 70. Ouais. Hein? Non, c'est complètement faux. Et c'est même scandaleux de dire une chose pareille, et pas plus qu'il n'a l'intention de brader le siège de membre permanent du Conseil de sécurité détenu par la France à l'ONU. Et ça aussi, c'est honteux de l'accuser de trahison à ce sujet, alors qu'il n'a jamais eu cette intention.
Merci Olivier Mazerolle pour ce MacPol. Dans un instant, les infos de 19h avec Alexandre de Saint-Aignan. Juste après les dessous de l'écran, on va donner la parole à ceux qui sont en première ligne dans la crise des gilets jaunes, les reporters. Certains, malgré des gardes du corps, sont encore agressés. Un appel au calme a été lancé cette semaine. Puis dans Autoradio, juste après, on vous donnera tout un tas de conseils si vous voulez acheter moins cher des pièces d'occasion pour votre voiture. A tout de suite.
Le MacPol, RTL dimanche soir.